Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On a pas mal de choses à discuter ensemble aujourd'hui. Puis en première heure d'émission, j'ai envie de vous mettre tout de suite dans le bain de notre sujet parce que c'est un peu le suivi qu'on a fait le mois dernier d'un sujet qui est très préoccupant, c'est-à-dire l'état des routes au Québec. Le fait qu'il y a quand même encore beaucoup d'accidents sur les routes. Vous voyez qu'encore ce matin, là, on parle d'un accident à Granby. Vous avez vu où il y a une petite fille là, de 9 ans qui lutte pour sa vie. Une collision. La voiture de son père a été frappée de plein fouet. 3 véhicules impliqués. Elle était dans la voiture de son père, une Mazda 5. Et il y a 4 blessés dans cette collision-là. Le père, les deux enfants, donc cette petite fille, son frère de 12 ans, puis un autre enfant qui prenait place dans le camion là, qui est venu percuter les véhicules. On dit que le conducteur du poids lourd aurait forcé le feu jaune à l'intersection. Il y a aussi des questions de témérité au volant, de manque de patience, mais il y a aussi l'état des routes. Et le mois dernier, on a beaucoup parlé de la 158, entre autres, où il y avait même des maires. On a parlé à Jacques Demers, le président de la Fédération québécoise des municipalités, le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, qui disait, entre autres, faut faire quelque chose. Les routes sont dangereuses. Puis il y a des endroits, là, surtout à l'extérieur de Montréal, où ça se croise. Là. C'est des autoroutes, puis c'est des voies en contresens. C'est un peu aussi l'histoire que je vais vous proposer ce matin. On a avec moi ici, ils sont venus de Mont-Laurier pour nous en parler, parce qu'aujourd'hui, la famille veut passer le mot qu'il faut faire attention. Comme conducteur, on doit vraiment avoir le plus d'expérience possible, c'est sûr, mais il y a aussi des coins qui ne nous aident pas. Et il y a une famille de Mont-Laurier qui est encore sous le choc, c'est sûr, après le décès de leur fille, il y a à peine un mois. C'est la jeune Brittany Garou qui est morte parce que sa voiture, dans un endroit sur la 117 où il y a eu des très mauvaises conditions, il faut le dire, il y a un mois là, sur cette route-là, il y a eu des grands vents, sa voiture a été finalement comme poussée sur la voie en contresens et elle a été percutée de plein fouet. Elle serait morte sur le coup, vient de me dire sa maman qui est avec moi, Cindy Léveillé. Merci d'être là.
Merci à vous pour l'invitation.
Vous êtes venue avec votre fille aînée, Shani. Bonjour, Shani, d'être
Bonjour.
Là. Tu as 20 ans, la sœur de Brittany qui venait d'avoir 17 ans, en fait, votre fille, Cindy.
Oui, elle avait eu 17 ans le 17 janvier.
Au nom des auditeurs et du mien, c'est sûr, et de l'équipe, je veux d'entrée de jeu vous présenter nos plus sincères condoléances parce que je pense qu'il n'y a pas de mots pour exprimer ce que vous vivez en ce moment. Je trouve ça vraiment très, très méritoire que vous ayez pris la parole ces jours-ci pour dire qu'il faut faire absolument attention. Votre message aujourd'hui, un mois après le décès de votre fille, c'est de dire que nos routes sont dangereuses, entre autres.
Oui, entre autres, nos routes sont dangereuses. Dans le fond, le tronçon où Brittany est décédée, c'est le tronçon le plus meurtrier au Québec. C'est un tronçon de 70 km entre La Belle et Mont-Laurier. C'est vraiment le tronçon le plus meurtrier du Québec. Donc, tu sais, peut-être que s'il y aurait eu un 4-voies, un terre-plein, elle aurait peut-être eu plus de chance. C'est sûr que les conditions météo n'étaient pas en sa faveur non plus.
Qu'est-ce qu'il faisait comme temps cette journée-là?
Dans le fond, il y avait beaucoup de vent. Puis c'était par endroit parce que elle arrivait de Saint-Jérôme, puis moi je lui ai parlé souvent dans la journée. Puis c'était par endroit parce qu'il y avait des endroits que c'était pas si pire que ça, là. Mais il y a des endroits, c'est ça, que c'était plus venteux, mais Brittany, elle avait adapté sa conduite, elle roulait vraiment pas vite, elle roulait peut-être 60. Elle avait mis ses 4 flasheurs, mettons, sur des tronçons où est-ce que c'était qu'il y avait plus de vent, là. Moi, je la suivais avec une application qui s'appelle Zenly. J'ai eu beaucoup de messages Facebook me demandant c'était quoi cette application-là. Là. Fait que donc, moi, je suis mes filles là-dessus. J'étais un petit peu mère poule et parano, on pourrait dire un peu. Mm. Puis sur cette application-là, ben dans le fond, je suis capable de suivre mes filles où qu'ils sont. Puis je vois même combien qu'ils roulent. Je vois
toi aussi
même...
tu conduis, Shani?
Oui, ça? Oui, moi ouais. Aussi je conduis. Puis c'est ça, des fois, moi j'ai ma mère et j'avais ma sœur aussi sur cette application-là. Fait que moi aussi je pouvais voir combien qu'ils roulaient. Puis on peut même voir si leur cellulaire est à combien de pourcents, puis s'il est plugué ou pas.
S'ils conduisent avec leur cellulaire dans la main ou pas, là, ouais. En plus. Là.
Ben pas s'ils conduisent le cellulaire dans la main, mais...
S'il est en fonction, c'est ça.
Oui, ben c'est sûr que l'application, dans le fond, l'application, il faut qu'elle soit dans leur cellulaire, puis on voit le pourcentage, mettons, de batterie qui reste, puis s'ils l'ont branché. Mais Brittany ne textait pas, puis son papa lui avait installé, là, juste le lundi, il lui avait installé un radio avec Bluetooth, donc elle avait la main libre. Puis, de toute façon, on a fait les policiers m'ont fait sortir ma facturation là de cellulaire.
Et c'est pas un enjeu de texto au volant.
Aucunement, ouais. Aucunement un enjeu de texto. Il y avait pas eu de texto de la journée et les appels qu'il y avait eu c'était des appels entrants de ma part parce que moi je lui avais parlé plusieurs fois.
Parce que vous aviez une certaine inquiétude quand même, Cindy, par rapport à votre fille qui conduisait depuis peu. Elle avait son permis, elle venait de faire son permis temporaire. Elle avait 17 ans, donc elle venait juste là d'avoir le droit de conduire toute seule, c'est bien
oui,
ça?
Oui, exactement.
Depuis trois jours.
Oui, depuis trois jours, oui.
Fait qu'il y avait une inquiétude de votre part.
Oui, c'est sûr. Mais Brittany, c'était une petite fille très responsable. Puis moi, le jeudi soir, elle est arrivée à mon travail, elle était toute prête, puis elle m'a dit, ben je m'en vais coucher chez la grand-maman à mon chum, puis demain, je m'en vais le porter à sa pratique de football. Mais elle devait pas revenir le soir, en fait. Elle devait revenir le samedi, mais elle a pas eu son congé à son travail le vendredi soir. Fait qu'en fait, elle s'en revenait travailler le vendredi soir. C'est pour ça qu'elle a repris la route. Parce que sinon, elle aurait recouché à Saint-Jérôme le vendredi soir.
J'imagine, Chani, qu'est-ce que tu veux rajouter? Quand tu repenses à tout ça, ce que ta sœur a pu vivre, toi-même, t'es une jeune conductrice.
Oui,
il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Bon, on met de côté le cellulaire, il y a la température, il y a la route. Ta mère vient de dire que la 117, on la connaît, là. C'est vrai que c'est effectivement, c'est comme une boîte à surprises, hein. Surtout là, on sait jamais qui on croise.
Oui.
Ça va vite aussi. C'est quand même, je pense que c'est à 90 km, hein.
Oui, 90 km.
C'est quand même rapide. Je regardais encore ce matin avec l'équipe, là, le tronçon où l'accident est arrivé. Il y en a des camions qui passent là, puis pourtant, il y a le chemin, là, Castor, là, qui coupe.
Oui.
Si t'arrêtes pas, puis que c'est glacé, ça peut être dangereux. Toi qui es une jeune conductrice, t'as dû imaginer plein de choses aussi, là, de ce qui a pu se passer.
C'est sûr que on se pose beaucoup de questions et il y a des questions qui vont rester toujours sans réponse.
Par exemple?
Mettons, qu'est-ce qui s'est vraiment passé?
Comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée dans la voie d'à côté,
ça.
Là?
Il y a des questions qui vont rester sans réponse, mais c'est ça.
Est-ce que tu penses que l'inexpérience de conduite de ta sœur a pu jouer?
Je vous dirais que oui, c'est sûr que ça l'a pu jouer. Sauf que je vous dirais que qu'est-ce qui a plus joué, c'est vraiment les conditions routières. Parce que s'il n'y aurait pas eu une grosse bourrasque de vent et de neige, elle aurait sûrement pas perdu le contrôle. C'est vraiment le plus gros là-dedans, c'est vraiment les conditions météo, là, je vous dirais. Puis moi j'habite à Mirabel. Puis ce jour-là à Mirabel, tout était, tu sais, il faisait pas, c'était pas si pire que ça. Puis justement, cette journée-là, juste avant d'aller porter son copain à sa pratique de football, elle est venue chez moi. On était dîner ensemble, elle est venue chez moi, juste avant de repartir. Elle est venue chez moi, puis elle m'a montré ce qu'elle savait acheter, quand elle a été magasinée et tout. Fait que moi, j'étais avec elle 3 heures avant. Je me rappelle, quand j'ai regardé après dans mon cellulaire, j'avais mis une story sur Snapchat. J'avais marqué ma petite sœur qui vient me voir en ville, à quel point je suis rendue vieille, quelque chose de même. Puis quand j'ai regardé ça, après, je me suis dit, my God, j'étais avec elle 3 heures avant. C'est comme... C'est fou de... Mais je suis contente d'avoir pu la voir cette journée-là.
Toi, c'est important de témoigner ce matin parce que tu veux envoyer un message aussi aux gens qui nous écoutent.
Oui, en gros, là, c'est, tu sais, il y a de changer, faire des changements sur la route, de donner plus de cours plus particuliers sur la conduite hivernale, mais c'est aussi de montrer aux gens à quel point la vie va vite, puis à quel point ça peut arriver à n'importe qui. On se dit tout le temps, ça nous arrivera jamais à nous.
On y pense pas, en
on
fait.
On y pense pas, puis on veut pas y penser, puis on se dit tout le temps que ça arrive juste aux autres, mais non, ça arrive pas juste aux autres, puis ça, la vie, elle peut nous être enlevée en un claquement de doigts, puis mettons que cette journée-là, j'étais contente de l'avoir vue, d'y avoir dit que je l'aimais, d'y avoir fait un câlin puis un bec. Mettons que c'est important de toujours dire à ses proches qu'on les aime, parce qu'on sait jamais que... Je m'attendais pas que cette journée-là, ça serait la dernière fois que je la verrais.
Tu m'as dit tout à l'heure, là, notre seule, contrairement à ce qui a été écrit dans les journaux, Brittany n'est pas morte à l'hôpital. Là.
Elle non, est... elle n'est pas décédée à l'hôpital. Brittany a eu une fracture cervicale. Fait qu'elle est décédée sur le coup. Les médecins nous ont dit qu'elle nous ont promis qu'elle avait absolument rien senti. Elle s'en est sûrement même pas aperçue qu'elle a été percutée. C'est vraiment sur le choc qu'elle est décédée. Puis, dans un sens, c'est comme un peu notre seul réconfort, c'était savoir qu'elle n'a pas eu aucune douleur.
Mmh. On va s'arrêter ici, Cindy. Reste avec nous, bien sûr. Merci beaucoup d'être là, toutes les deux. Je comprends vraiment votre douleur. Cindy, on va faire une très courte pause ici. Après la pause, justement, on va recevoir un pilote instructeur de conduite préventive parce qu'il y a certainement là-dedans un peu d'inexpérience. J'aimerais ça qu'on en parle un peu de ça. Il y a l'état des routes. C'est clair que on l'a dit plusieurs fois, et là, ça commence à être un enjeu de santé publique, carrément. Les gens se blessent sérieusement, pour pas dire se tuent sur nos routes parce qu'elles manquent de sécurité, pour que la Fédération québécoise des municipalités lève le drapeau rouge et dise « il faut faire quelque chose, il y a des tronçons dangereux, la route 117 est un bon exemple ». Là, dans le cas de la mort de Brittany, il y avait les éléments y étaient là. Il y avait une route dangereuse qui est connue pour être la plus dangereuse au Québec. Il y avait les conditions hivernales qui n'ont pas aidé. Il y avait l'inexpérience d'une jeune conductrice. Ça pourrait nous arriver, comme le disent Cindy et sa fille Shani, ça pourrait tous nous arriver. On va discuter de ça. J'aimerais que vous me dites quelle est votre réaction par rapport au témoignage de cette famille éprouvée. 514-790-9850. Sans frais, vous pourrez nous joindre, bien sûr, en faisant le 1-866-790-9850. À tout de suite. C'est des sujets douloureux à aborder, mais je pense que c'est des sujets importants également parce que c'est la sécurité sur nos routes. D'ailleurs, ce matin, on parle beaucoup de cette au lendemain de l'accident là, à Granby qui a touché au moins trois familles. Il y a une petite fille de 9 ans là, qui lutte pour sa vie, d'après ce qu'on comprend. Il y a un camion là-dedans d'impliqués. C'est pas évident. Vous venez d'entendre le témoignage de Cindy Lévillier, qui est la mère de Brittany Garreau, 17 ans et 3 jours, et qui est décédée sur la 117 le mois dernier, dans des conditions, on a compris que les conditions étaient épouvantables à ce moment-là, cette journée-là, le 8 février. Elle revenait de Saint-Jérôme vers Mont-Laurier. Elle avait son permis depuis 3 jours. Elle l'avait eu le mardi, puis l'accident a eu lieu le vendredi. Est-ce que ça a penché aussi un peu dans la balance? C'est jamais une affaire. Hein. C'est tout le temps un mélange de facteurs qui fait qu'il arrive quelque chose. La vie est faite un peu comme ça. Sa sœur Shani nous l'a bien dit tout à l'heure, ça pourrait arriver un peu à n'importe qui. Je trouve ça important de se le dire ensemble ce matin et aussi de parler avec des vrais spécialistes. Donc, on a Jean-François Hévy avec nous. Il est pilote instructeur de conduite préventive. Merci, Jean-François. J'aimerais avoir votre réaction au témoignage de Cindy et de Shani par rapport à l'accident qui a enlevé la vie de Brittany. Il y a la 117. On sait que la 117, C'est un mouroir, cette place-là. Là.
Oui, ben c'est sûr, c'est pas la seule au Québec qui est une route, probablement. Mais on peut rajouter aussi à ça, c'est le fait que nos enfants sont pas préparés aux conditions hivernales au Québec. Et malheureusement, moi, en tant qu'instructeur préventif, on le voit régulièrement. Oui, c'est vrai, on leur enseigne comment faire un stop, comment arrêter à une lumière, comment stationner la voiture, mais jamais qu'on va leur montrer comment réagir dans une situation d'urgence, une situation que la voiture ne fait pas ce que l'on s'attendait qu'elle fasse. Malheureusement, le cerveau humain est fait d'une manière qu'en mode de réaction panique, il va faire ce que lui trouve logique de faire. Dans certains cas, la logique de notre cerveau n'est pas nécessairement la bonne réaction à faire.
Ouais, vous pensez que dans ce cas-ci, l'inexpérience de la jeune Brittany a penché aussi dans la balance?
C'est sûr que je ne suis pas conscient.
On n'était pas là, personne.
On n'était pas là,
mais...
je veux dire, on peut supposer que les conditions étaient vraiment mauvaises. L'auto a probablement glissé pour quelque raison que ce soit. Par la suite, souvent la réaction d'un conducteur va dépendre de si l'auto va continuer à glisser ou on va reprendre le contrôle. Malheureusement, les jeunes de nos jours vont sur les routes très tôt avec aucune connaissance de ça et ils l'apprennent un peu en essai-erreur. Hein. Malheureusement, parfois, l'erreur
est
fatale. Ouais. C'est ça.
Vous dites ils vont sur les routes très tôt, trop
tôt? Trop tôt. Je suis convaincu qu'il y a des jeunes c'est 16 ans. Je suis convaincu qu'il y a des jeunes qui sont très, très, très matures. Dans le cas de Brittany, je crois que sa mère a fait la preuve. Là, elle conduisait lentement, elle a mis ses hasards pour signaler qu'elle roulait lentement. Je pense qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Sa vitesse était réduite. Malheureusement, l'inexpérience souvent va créer une situation qui va suivre une situation d'urgence.
Puis là, on parle de jeunes. Vous dites, est-ce que les jeunes sont assez préparés? J'ai envie d'élargir puis de dire, sommes-nous tous assez préparés aux conditions hivernales? Je veux dire, on peut revenir sur le cafouillage de la 13. On a beau dire, c'est deux poids lourds qui ont comme barré le chemin puis les gens ont été pris derrière. Il y a des carambolages. Il y en a eu des carambolages cet hiver. Là. Il y en a eu deux, trois là, auxquels on pense là, où les gens se filment même en disant, mon Dieu, c'est comme, on voit rien, on voit absolument rien. T'arrives, tu te jettes dans le tas finalement. C'est comme... Qu'est-ce qu'on peut contrôler sur la route puis qu'est-ce qu'on peut pas contrôler? Tu sais, dans une route, en plus, 90 km/h, quand tu te croises là, dans une route comme ça, c'est une route provinciale, mais secondaire, il semble que là, il y a comme plein d'éléments là, qui n'aidaient pas.
Malheureusement, je vais être obligé de dire, et probablement que tous mes collègues instructeurs préventifs vont être d'accord, mais malheureusement, je vais être obligé de vous dire qu'il y a une très forte majorité de la population qui, leurs techniques de conduite ne sont pas adaptées. On le voit quand on donne des cours préventifs. On peut juste prendre exemple la bonne vieille mentalité de dire « quand ça glisse, je pompe les freins », qui est probablement la pire manière de freiner au monde. Malheureusement, ça a été enseigné dans le passé. Aujourd'hui, c'est plus adéquat que les voitures qu'on a aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on fait au lieu de pomper les freins?
Ben, en fait, les voitures d'aujourd'hui, la majorité des voitures sont équipées d'ABS. En réalité, l'ABS fait un peu le même principe que pomper les freins, mais peut-être 300-400 fois plus vite que qu'est-ce qu'un humain peut le faire. Et de plus, peut le faire sur seulement une roue qui a besoin et non les quatre roues en même temps. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, les voitures se sont énormément améliorées. On a plein de systèmes d'assistance qui vont aider à toutes les situations. Mais la personne qui reste derrière le volant va quand même rester la personne qui va diriger la voiture au bout de la ligne. Donc, si elle a une mauvaise réaction, on aura beau avoir les systèmes adaptés, quelque chose de fatal pourrait arriver.
Ouais. Vous avez fait une vidéo, Cindy. Cindy Léveillé est avec moi, la mère de Brittany, qui a été partagée par près de 60 000 personnes, à peu près jusqu'à maintenant. Là, vous avez toutes sortes de commentaires. Il y a même des gens qui vous ont dit, bon, comment ça se fait qu'une jeune de 17 ans était sur la route? Bon, ça se fait que vous l'avez laissé aller. Vous-même, dans votre famille, ça a créé un certain remous. Pas trop aller là-dedans, mais quand même, des fois, ça brise des familles, ce genre d'accident. On reproche à l'autre, voyons, pourquoi tu l'as laissé partir. Comment vous vivez ça?
Écoutez, comme je dis, Brittany, c'était une petite fille super responsable.
Et avez-vous dit de ne pas y aller?
Non, je ne lui ai pas dit de ne pas y aller. Mais par contre, le mardi, quand elle a eu son permis, elle voulait aller chez son chum qui reste à peu près à 20 minutes. Puis j'y avais dit de pas y aller. Puis tu sais, elle m'a appelé à 5 heures au travail et m'a dit, ben, je suis rendue là.
Ouais. Il y a ce qu'on peut contrôler, puis il y a ce qu'ils font dans notre dos ou qu'ils font pareil.
Là, elle avait son auto. Je pouvais pas mettre un cadenas non plus après les clés.
Ouais.
Puis Brittany, c'est ça, est arrivée à mon travail, moi, jeudi soir, était toute prête.
Toute fière?
Oui, toute fière. Puis, tu sais, elle m'a dit, tu sais, je pars ce soir. Puis, tu sais, même si j'aurais essayé de l'empêcher,
c'est ça.
Elle l'aurait fait pareil.
Tu sais, on a tous été jeunes. On a tous eu une voiture. Puis, même si nos parents nous disaient, va pas là, On a tous été en cachette. Elle, il a pas été en cachette. Elle est venue me voir.
Pour vous dire, regarde, maman, là, je suis capable. Là, c'est
oui,
ça?
C'est ça.
Fanny, toi qui la connaissais bien, ta sœur, vous êtes proche, là. Vous étiez proche en âge aussi.
Oui, bien, moi et ma sœur, c'est sûr que ma petite sœur, c'était comme ma meilleure amie. C'est sûr que maintenant, j'habite à Mirabel, ça fait un an. Mais ma petite sœur...
Toi, lui as-tu dit? T'es sûre que tu veux... Des fois, les sœurs se disent des affaires que ouais, disent ben, pour parents.
Ouais, ben, était avec moi avant de partir, puis tu sais, ou à Mirabel, c'était pas si pire que ça. Mais tu sais, c'est sûr que avant de partir, j'ai dit, tu sais, Brittany, j'ai dit, fais attention, j'ai dit, je sais que plus vers, c'est pas beau, tu sais, fais attention, je veux pas que t'aies un accident. Puis une chose aussi.
Qu'est-ce qu'elle a dit ça?
Elle a dit, inquiète-toi pas, je vais faire attention, ouais. Je fais tout le temps attention, puis tout. Puis, une chose aussi, une petite anecdote vite, qui est très bizarre, si on peut dire, c'est que un mois avant, j'ai retrouvé ça en regardant dans nos messages.
Le 29 décembre.
Le 29 décembre, c'était le seul message, bizarrement, que j'avais enregistré sur notre conversation Snapchat. Puis j'y ai dit, tu sais, Brittany, je m'ennuie de toi, j'ai hâte que tu viennes habiter en ville avec moi, mais j'ai dit, là, tu vas avoir ton permis, ça va être l'hiver. J'ai dit, je veux pas que tu aies un accident puis que tu te tues.
Oh mon Dieu.
Puis là, elle me dit, ben non, inquiète-toi pas, nanana. Fait que là, j'ai dit, tu sais, j'ai quand même peur, j'ai dit, j'ai peur que tu aies un accident puis que tu meurs.
Fait que là. Aviez-vous comme un.
Je sais pas, non, mais. Puis là. Brittany, en riant,
ouais.
Elle me dit, ben, elle me comme dit, ah, ben, s'il arrive de quoi, ben, je te donne ça, puis.
Mon char, mais mon char,
je le garde pour dans ma prochaine vie, puis blablabla. Puis, elle dit, on se parlait, il était comme le soir, puis elle dit, en tout cas, bonne nuit, fais-toi une liste de qu'est-ce que tu veux.
Ah.
Fait que ça, c'est quand même bizarre.
Ouais.
Puis, c'est la seule chose que j'avais enregistrée sur notre conversation, bizarrement, puis. C'était le 29 décembre, là. Fait que ça faisait pas longtemps, puis c'est ça. Quand que j'ai relu ça, ça a comme fait, oh mon Dieu, ça, on dirait que...
Des fois, il y a le dessin, vous pensez?
Ben, pour de vrai...
On s'est posé beaucoup de questions.
On s'est posé beaucoup de questions parce que on s'est beaucoup parlé, puis on s'est dit, à Brittany, elle a fait des choses comme... Un peu avant qui...
Préparait?
Pas qui préparait, mais on dirait que elle savait dans le fond d'elle. Je sais pas comment dire ça, là. Pas qu'elle savait, mais inconsciemment, qu'on dirait qu'elle s'en doutait, comme.
Beaucoup de personnes nous disaient que Brittany, c'était une vieille âme. Puis, on a discuté, Chani et moi, avec une personne qui parle aux morts. Ça peut être.
Un autre sujet.
Oui, mais. Tu sais, elle nous a dit une vieille âme, ben c'est ça, des fois, ils savent qu'ils sont là, mais pour pas longtemps. Ouais.
Vous avez essayé de parce que c'est une incompréhension totale.
Ben oui, quand Chani et moi, on a trouvé le message, on était complètement...
Mais je veux dire, apprendre que notre fille vient de mourir sur la route dans un accident 3 jours après avoir son permis à 17 ans, c'est...
On s'attend pas à ça maintenant.
Non, c'est clair.
C'est la pire chose.
Donc, on va trouver des réponses où on peut.
Oui, c'est ça. Fait que, oui, exactement. Fait que c'est ça,
on se tourne vers,
un certain réconfort en ayant réponse à certaines questions dans un sens.
Puis les questions vont toujours demeurer aussi, peut-être.
Oui, c'est pour l'histoire de la voiture que Brittany avait dit, je la garde pour dans une autre vie. On s'est posé la question, quoi faire? Parce que nous, la voiture, on a décidé de la faire écraser.
Oui.
Puis, dans ma bataille aussi, c'est qu'on n'a pas, ça a été long avant qu'on ait de l'aide psychologique. Puis quand on a fait écraser l'auto, moi, j'avais des questionnements justement par rapport à ce message-là que Brittany avait envoyé à Chani. Puis finalement, j'avais pas vu de travailleur social, mais j'ai réussi à avoir un médecin. Puis un médecin m'a aidé à comprendre. Puis elle m'a dit, en faisant écraser l'auto, elle s'en va comme au recyclage, puis vous y redonnez une deuxième vie.
Ça va dans le sens de ce que votre fille voulait, peut-être.
Oui, exactement. Ouais. Ça m'a un peu apaisé.
Comme ça partait avec elle.
Oui.
Pouvoir l'avoir au ciel, puis l'utiliser en haut.
Fait que c'est dur pour, tu sais, quand on a plein de questionnements comme ça, de pas avoir de service aussi. C'était un peu ma bataille aussi. Tu sais, les routes, oui, mais les services, ça a pris 20 jours avant que je réussisse à rencontrer une travailleuse sociale. Et
moi, j'ai pas encore de rendez-vous. J'ai pas encore vu personne. C'est ma professeure de psychologie. Moi, je suis au collège Lionel Groulx en ce moment, en éducation à l'enfance. Puis, c'est ma prof de psychologie qui, depuis le jour 1,
qui vous aide un peu.
Qui m'aide, qui me texte à tous les jours, qui m'appelle, qui s'occupe de tout. Puis, c'est elle qui a fait les démarches pour. Parce qu'on a un service aux étudiants, là, qu'on peut rencontrer des intervenants. Elle a fait des appels, elle s'est arrangée avec ça. Puis, mettons, je pourrais. Le lendemain, elle me dit, tu peux te présenter au collège, puis tu vas avoir une rencontre. Mais tu sais, c'est pas un suivi. Tu sais, c'est des rencontres au besoin. C'est pas un suivi total. Tu sais, c'est vraiment comme en attendant d'être vu par quelqu'un. Mais j'ai.
Il n'y a pas de soutien pour les victimes, pour les proches des victimes d'actes.
J'ai eu un appel.
Mortel sur la route, là.
C'est ça. J'ai eu un appel du CLSC, mais pour me dire que je suis comme sur une liste d'attente.
Ouais.
Pour avoir du service, il faudrait que je dise que je suis suicidaire, mettons.
Ouais.
Je suis sur une liste d'attente parce que j'ai pas, je suis pas en priorité, mettons, mais je pense que c'est un peu long, là, puis...
Si vous en avez besoin.
J'en ai besoin.
C'est clair.
Puis c'est quelque chose que je trouve inconcevable que... On attend aussi longtemps pour avoir des services psychologiques quand on vit quelque chose comme ça.
Tout à fait, tout à fait. Puis le fait d'en parler, c'est bien de vous en parler à tout le monde ce matin. On est ensemble, on veut juste vous serrer dans nos bras, vous envoyer beaucoup d'amour et d'empathie parce que on compatit énormément avec votre douleur. On va s'arrêter ici, on vient tout de suite après. Il y a des gens qui veulent intervenir. Pour nous joindre, vous pouvez faire le 514-790-9850. Sans frais, le 1-866-790-9850. Jean-François Hévé, pilote instructeur de conduite préventive, disait tout à l'heure, nos jeunes sont peut-être pas assez préparés. J'élargissais en disant peut-être qu'aucun conducteur au Québec est assez préparé pour ce genre d'histoire, pour faire face à l'état des routes, à la température aussi, au changement rapide. Là, parfois d'une journée à l'autre. On l'a vu encore cet hiver. Le CAA hier parlait du nombre d'interventions qu'ils avaient fait là, pour sortir les Québécois des fois du pétrin sur les routes. C'est pas rien. Là. On est tous un peu mal pris quelque part. On revient avec vos commentaires là-dessus. Est-ce que finalement on est assez expérimentés tous pour affronter les conditions hivernales, l'état de nos routes aussi? Il y a des secteurs sur le réseau routier du Québec là où ça fait vraiment pic-pic là pour c'est le moins qu'on puisse dire. Mario, vous êtes un camionneur justement, vous êtes souvent sur la route
Bonjour, Isabelle.
À l'histoire de ce matin.
Bonjour Isabelle, je suis content de vous parler. Si je pourrais vous parler des conditions d'hiver, là, mais je pense qu'on en a assez parlé de ça. Là. Mais moi, je fais la 20 entre Montréal et Québec tous les semaines. Et je fais 2500 km par semaine dans le Québec et en Ontario. Mais la 20, là, je vous le dis particulièrement cette année, je ne sais pas si c'est à cause de l'hiver qu'on a eu, mais elle est très, très, très endommagée. Je vous le dis, là, c'est rendu de des dos down, à des places. Là, puis si on ne tient pas le volant deux mains, là, ben, on pogne le décor, puis on change de voie, puis c'est rendu très, très dangereux. Je ne sais pas ce que le ministère va faire cette année, là. Mais je vous le dis, c'est vraiment rendu dangereux. Là. Je parle de la 20, là, mais je pourrais vous parler de plein d'autres trucs que je fais. Là. C'est vraiment rendu important. Pour les conditions hivernales, ben, regarde, il faut juste ralentir, mais les gens ne ralentissent plus. Ça roule en fou, pareil, ça remplit d'année en année.
Oui, merci Mario. Anthony?
Oui, allô?
On vous écoute, Anthony.
Oui, premièrement, j'aimerais souhaiter mes sympathies pour la famille de Brittany.
Merci. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Puis, ce que je déplore un petit peu sur la conduite au Québec, entre autres, c'est le respect de la route entre tous les conducteurs.
Ouais.
On met souvent ça, la faute sur les jeunes.
Je pense que tout
d'accord.
Le monde est... Ben oui. Mm-hmm.
Pas d'accord parce que, écoute, j'ai chauffé, je vais vous dire, là, j'étais un chauffeur de camion, j'ai chauffé des autobus scolaires, j'ai été souvent sur la route de la livraison. Et c'est pas vrai, c'est les jeunes qui font les fous de la route. Je m'excuse, j'ai tendance à dire que c'est les.
Et tout le monde.
Les gros véhicules, là, ça, pour moi, c'est les pires. Ouais. Les gros véhicules, là, ceux qui ont de l'argent, là, à couper.
Ouais.
Puis, je m'excuse, mais écoute, je chauffais des autobus. Il y a des femmes qui chauffaient sur les, avec des enfants qui passaient sur les lumières rouges. Vous avez parlé de Granby tantôt.
Ouais.
Granby, c'est la route la plus, une des routes dangereuses, la route 139. Il y a des accidents là tout le temps.
Ouais, je suis d'accord avec vous. Et puis c'est dangereux. Moi, c'est un coin que je connais bien. Là. Puis des fois, t'as peur. Tu te dis, mon Dieu.
Puis
tu peux être super confiant de ta propre conduite, mais c'est l'autre qui s'en vient en avant que tu ne traces pas, là, que tu dis d'un coup que tu sais jamais. C'est ça le problème. Merci, Anthony. On a Maître Lamontagne, justement, qui est avec nous. Éric Lamontagne est avocat criminaliste chez Contravention Expert. Il côtoie énormément de gens qui ont commis des infractions routières. Il analyse souvent les comportements des conducteurs. Bonjour, Maître Lamontagne.
Bonjour, Isabelle.
Votre opinion dans le débat là, qu'on a ce matin?
Bien, tout d'abord, tu me permettras de prendre une seconde pour offrir mes sympathies à la famille. Là. Et suite à ça, évidemment, bien, ce que je constate, c'est que, tu sais, on a beau essayer de penser là, à, bon, au comportement des jeunes, on en a parlé, la manière qu'ils conduisent. Là, on n'est pas dans cette situation-là. On est vraiment dans une situation où, même si on parle d'adapter les conduites, notre conduite, quand on sort d'un cours de conduite, Isabelle, la plupart du temps, on ne sort pas avec des connaissances pour conduire dans des conditions extrêmes comme on a eu cet hiver.
Ouais,
donc, c'est sûr et certain que dans une situation comme ça, on peut pas blâmer cette jeune femme-là. C'est ce qu'on appelle un act of God à un certain moment donné. Quand on prend toutes les mesures nécessaires, qu'on fait attention, parce que quand on dit adapter notre conduite aux conditions climatiques, comme dit le code de la sécurité routière, on parle de ralentir et de garder une distance principalement, parce que le reste, on les a pas les connaissances en conduite d'urgence, personne. À part évidemment les gens qui conduisent des véhicules d'urgence. Alors donc, il faut adapter sa conduite, mais un coup qu'on a fait ça, il y a des situations comme ça qui arrivent. Et je pense que on devrait vraiment, vraiment mettre l'accent sur le fait qu'on reste au Québec, on a des hivers rigoureux, on a des situations où ce que tout le monde à peu près a passé proche de prendre le chêne dans les deux, trois dernières semaines.
Mais des routes comme la 117, Éric, où là, t'es à contresens, t'as quelqu'un qui t'arrive d'en face à 90 km/h, puis on en parlait avec Jean-François Évé pendant la pause, il me disait ça, c'est la vitesse d'été, hein, Jean-François, vous me disiez, dans le fond, c'est... Mais l'hiver, c'est sûr que ça devrait pas être 90.
Effectivement.
Non seulement ça, Isabelle, c'est entièrement raison, mais en plus de ça, la configuration d'une route, pense-y, là. On est dans une route où ça rencontre et il n'y a absolument aucune séparation physique entre les deux voies.
Voilà, c'est ça.
Si, tu sais, c'est la même chose sur le pont Jacques-Cartier.
Ça t'est arrivé, d'ailleurs, à toi, non? Ça t'est arrivé?
Effectivement. Donc, dans ce contexte-là, on réalise ça, on s'assoit et on y pense, ça n'a pas de sens. Que des voies où il y a particulièrement aussi de la circulation lourde, comme des véhicules lourds, il n'y a rien qui sépare les deux voies. C'est très dangereux. Et effectivement, cette route-là, comme bien d'autres routes au Québec, est dangereuse.
Jean-François, est-ce qu'on devrait avoir des panneaux d'été puis des vitesses d'hiver? Genre, l'été, tu peux rouler à 90, mais l'hiver, ben, c'est 70 puis pas plus?
Mais c'est sûr que ça pourrait être une option envisageable. Je crois qu'il y a des pays qui le font, mais au Québec, ça serait envisageable. 90 km/h l'été sur la route 117 peut être correct, mais c'est sûr qu'en tempête de neige ou des vents forts ou la chaussée glacée, 90, c'est vraiment trop élevé. Donc oui, ça pourrait être envisageable. Présentement, la seule signalisation qu'on va avoir, ça va être faites attention, ralentissez, adaptez votre conduite et des choses
mais
comme ça.
Mais ça, on l'écoute-tu, ça, ces panneaux-là? Ça nous rentre par une oreille puis ça nous sort par l'autre. Mais Éric, toi, ça t'est arrivé carrément sur le pont Jacques-Cartier là, d'avoir une voiture là, qui est venue te chercher, qui arrivait en sens inverse, là, puis sans
ben
muret.
Ben oui, c'est ça.
Sans muret.
Ben oui, c'est dans des situations où tu sais, on se rend compte, bon, il y a toutes sortes de raisons. Comme tu l'as dit tantôt, Isabelle, on ne peut pas prévoir ce que l'autre conducteur va faire. T'sais. Mm. On peut conduire, nous, puis faire attention de notre côté. C'est pas toujours de notre faute. Il peut y avoir d'autres conduites carrément erratiques. Dans mon cas, et la personne avait qu'on appelle ça un pneu de secours, là, avec les choses étaient tout rouillées. Ça faisait longtemps qu'ils roulaient avec ça. Tu sais, c'est des gens qui font pas attention. Sauf que, dans ce contexte-là, même si on réduit la vitesse, si on met des pancartes de réduction de vitesse, il en demande pas moins que c'est une question de logique. Et c'est ça que veut dire adapter notre conduite. Sauf que, tu sais, bon, on est tout le temps pressé, on a des distractions. Là, c'est pas le cas, évidemment, dans cette situation-là. Mais c'est toutes des choses qui s'accumulent et qui font que je pense que on doit principalement, on met beaucoup d'argent sur la répression au Québec, hein, par rapport à plein des choses, mais il faudrait en mettre sur l'éducation, s'assurer là, qu'on en a dans les cours de conduite, qu'on apprend comment conduire, parce que ça fait un parallèle rapide. En moto, c'est la même chose, Isabelle. Les gens qui finissent de conduire, ils finissent leur cours de moto, ils sont pas capables de contrôler des gros engins comme ça, et souvent se ramassent avec des accidents ou des situations où ils font la mauvaise décision et ils ont des accidents. on n'est pas préparé. Ah.
Merci beaucoup, Maître Lamontagne. Merci bien. On s'arrête, on revient tout de suite après la pause. Éric, bonjour. Vous habitez dans le secteur de la route 117, là, qui est la route en cause dans la mort de Brittany Garraud.
Oui, effectivement, oui. Oui, écoutez, c'est il y a plusieurs choses là, de ce que je vous écoutais, de ce que vous avez dit, mais cette route-là, c'est sûr qu'il y a une question là, de température, parce que dans la communauté, là, ça a beaucoup secoué les gens, ce décès. Mm. Et mais c'est une route qui est dangereuse. Je la prends tous les jours. Des accidents, j'en vois tous les semaines. C'est une route, c'est pas pour rien qu'il y a un comité qui existe pour depuis longtemps pour, dans le fond, le tronçon Labelle Mont-Laurier, là, qui soit à double voie, là, si on peut dire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, écoutez, il y a aussi les gens, là. Ça n'a pas de sens, là. Moi, quand même, là, je suis habitué de rouler, là. Puis, mais me faire... l'autre fois, là, il y avait une tempête, puis on voyait rien, puis je roulais quand même 70, 75. Je pouvais pas rouler plus.
Exact.
Puis, il y avait un camion qui me poussait, mais c'est constamment comme ça. C'est constamment. Et c'est ce qui fait que ça contribue beaucoup.
Merci beaucoup, Éric. On termine, donc je vais passer un petit peu vite. Francis, rapidement, votre opinion là-dessus?
Oui, bonjour, Isabelle. Tout d'abord, je vais offrir mes condoléances à vous invités. Je travaille avec l'Association des écoles de conduite du Québec. Et pour faire une petite, un petit résumé, en 2010, la Société de l'assurance automobile du Québec a imposé, en fait, aux jeunes conducteurs un programme d'éducation routière.
Oui.
C'est une excellente initiative de la part de la SAC. Lors de l'élaboration de ce programme, il y avait des discussions à l'intérieur du groupe de travail à l'effet qu'il devait y avoir des heures d'accompagnement cumulées de la part, exemple, soit d'un parent ou d'un accompagnateur en parallèle
à l'école.
Pour lui, dans les écoles.
Mais je vais vous donner un exemple, Francis. Moi, je le vis avec ma fille de 16 ans qui est en train de faire son cours de conduite. Il faut payer un supplément si on veut qu'elle ait une conduite d'hiver là, dans le cours. Je veux dire, ça ne devrait pas, là. Je vais le payer, le supplément, mais ça devrait... C'est quasiment 1 000 $ un cours de conduite, là. C'est 800-900 $. À un moment donné, il faut aussi qu'ils apprennent quelque chose. Moi, je trouve qu'on parle beaucoup de « prends pas ton cellulaire, prends pas de drogue, prends pas d'alcool ». Mais je veux dire, les jeunes le disent. OK, on le sait, ça, tout le monde nous le dit. On peut-tu nous montrer à conduire? Il y a ça aussi, Francis.
Oui, tout d'abord, s'il y a une école de conduite en particulier qui sont prêts à vous charger des heures supplémentaires pour la conduite hivernale, c'est tout à fait en désaccord avec l'essence du programme. Le programme s'échelonne sur 1 an, comme vous le savez, beaucoup de personnes le savent déjà, et le but est vraiment de toucher à toutes sortes de configurations, autant côté météo, mais également configuration au niveau d'ensoleillement, la conduite de nuit. Donc, ça ne devrait pas être comme ça. Si c'est comme ça, il faut se poser des questions sur le sérieux de l'école. Cependant,
je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est ce que le CAA, moi, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Puis c'est la seule école, d'ailleurs, ils font leur publicité un peu là-dessus. Vous venez chez nous, puis vous allez même avoir, si vous voulez, vous pouvez même demander ça. Enfin, est-ce que je me trompe, Jean-François?
Ben, je crois bien que
merci,
oui.
Merci, Francis.
Je crois bien que oui, mais en dehors de ça, moi, je crois aussi que les écoles de conduite... les instructeurs ne sont pas nécessairement formés pour adapter les jeunes. Puis je peux donner un petit exemple vite. On n'aura pas d'école de conduite précisément, mais ma fille a 18 ans. Elle a passé son permis de conduire il y a moins de 6 mois. Et l'école de conduite, le dernier cours théorique avant d'aller sur la route avec les instructeurs, les parents sont invités à aller au cours. Et quand je suis allé au cours, la première chose que l'instructeur dans sa présentation m'a dit « Bonjour, c'est moi qui enseigne à votre enfant ». Le code de sécurité routière, mais je ne suis pas là pour l'enseigner comment contrôler sa voiture en cas de dérapage. Et il a même dit, lui-même avoué avoir 2 dérapages dans le dernier hiver.
Mais voyons donc!
Moi, j'étais abasourdi que cette personne, c'est elle qui va enseigner à ma fille comment conduire. C'est elle qui va préparer ma fille à la conduite hivernale. Pour moi, c'est le plus gros problème de l'éducation. Reste là.
Janie, tu l'as fait il y a quoi, 3 ans, ton cours? Comment t'as trouvé ça?
Mettons que c'est assez basique comme cours, là. je sais qu'il y a certains profs que, mettons, ils vont tirer le bric à bras ou quelque chose de même pendant l'hiver, mais sans plus. Là.
Ça ne prépare pas.
Il n'y a rien qui nous prépare aux conditions de l'hiver. Puis il n'y a rien qui... On n'a pas de cours là-dessus spécifiquement. Là.
Il va falloir que ça change en tous les cas. Il va falloir que ça change pour les routes en tous les cas pour éviter d'autres accidents comme celui de votre fille, Cindy. Oui. Cindy Léveillé, merci beaucoup d'avoir pris la peine d'être venue parler à tout le monde de ce que vous avez vécu. Merci beaucoup, Shani. Fais attention sur la route.
Oui.
On va tous faire attention sur la route. On va suivre votre message. Jean-François Évé, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Jean-François est pilote instructeur de conduite préventive. Beaucoup de gens veulent connaître l'application. C'est Zenly. Z-E-N-L-Y. Vous pouvez suivre vos jeunes sur la route. Merci à tous. On se retrouve après les nouvelles.